Leçon 17. Vers la maturité spirituelle. Le ministère enseignant de l'Église. À la conversion, une transformation se produit. La convertie a de nouveaux désirs et de nouvelles priorités. Le changement est si important que la Bible le décrit comme une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Mais certaines choses prennent du temps. La convertie ne voit pas immédiatement comment appliquer des principes chrétiens à toutes les parties de sa vie. Il doit apprendre les principes, puis voir façon de les appliquer. Il existe également un processus de maturation spirituelle personnelle. La nouvelle convertie est un bébé en Christ. Lisez 1 Corinthiens 3, 1 à 2. Selon ces versets, qu'est-ce qui est typique d'une nouvelle convertie? Lisez Hébreux 5, 13 à 14. De quoi parlent les versets des versets? Quelle est la nourriture solide? Qu'est-ce qu'une caractéristique de la maturité spirituelle? Au début de ce cours, nous avons examiné la grande commission que Jésus a donnée à l'Église. Regardons-la à nouveau. Lisez Matthieu 28, 18 à 20. Dans ce passage, quelle responsabilité Jésus a-t-elle donnée au-delà de l'évangélisation? Avant de donner la grande commission, Jésus a déclaré qu'il avait toutes les autorités au ciel et à la terre. Ensuite, il a donné à l'Église la responsabilité de ramener les gens à obéir à son autorité. Jésus a dit aux disciples non seulement de prêcher l'Évangile, mais d'enseigner tout ce qu'il avait commandé. L'évangélisation n'est que la première partie de la tâche. L'enseignement converti pour obéir à tous les commandements de Jésus est le processus de disciple. Échouer dans le disciple est aussi grave que d'échouer dans l'évangélisation. Le ministère de l'enseignement de l'Église est d'apporter des convertis en maturité spirituelle. En Éphésiens, on nous dit que Dieu appelle les personnes à des rôles spéciaux du ministère dans le but de constituer des croyants afin qu'ils ne soient plus des enfants. Éphésiens 4, 11 à 14. Le résultat de leur âge adulte spirituel atteint est la stabilité doctrinale. Un pasteur est particulièrement responsable du disciple. Paul a déclaré à Timothée « Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » 1 Timothée 4, 13. Il ne faisait pas principalement référence à l'étude personnelle de Timothée. Il parlait du ministère. Le ministère de Timothée était de se concentrer sur la lecture et l'explication des Écritures, de donner une orientation spirituelle et d'enseigner la doctrine chrétienne. L'une des qualifications d'un pasteur est qu'il pouvait enseigner. 1 Timothée 3, 2. Parce que l'apprentissage fait partie de la formation spirituelle, l'enseignement fait partie du travail de disciple. Les enseignants sont importants dans l'Église, et l'Église doit toujours travailler pour développer des enseignants. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée 2, 2. Cette instruction a été donnée par Paul à Timothée, à partir d'un évangéliste et d'un pasteur expérimenté à un ministre plus jeune. Paul n'était pas convaincu que la foi serait transmise en prêchant uniquement. Les individus devront être formés à des efforts particuliers et être prêts à former les autres. Si une telle formation n'était pas accomplie par prêche à la congrégation, ces hommes fidèles devraient être formés individuellement ou en petits groupes. Il y a beaucoup d'enseignements à faire. Quel pasteur a le temps de tout faire, d'autant plus que tout le monde n'est pas prêt pour la même instruction en même temps? Mais Éphésiens 4, 11 ne dit pas « Il a donné un pasteur, une seule personne et un seul rôle. » Au lieu de cela, il y a divers rôles et plusieurs personnes à les remplir. Dieu appelle les enseignants, leur donne une capacité d'enseignement et leur permet de parvenir à travers l'Église d'un ministère enseignant. La communauté chrétienne et la responsabilité spirituelle. Le véritable disciple est plus qu'une information à enseigner. Il inclut la mise en forme de valeurs, de priorités, d'attitudes et de modes de vie. Ce processus ne peut se produire que dans une communauté chrétienne avec une responsabilité spirituelle. Tout au long des Écritures, nous voyons que Dieu a voulu que les gens vivent en communauté, en commençant par la déclaration de Dieu selon laquelle Adam ne devait pas être seul, Genèse 2, 18. Certains avantages de la communauté sont décrits dans Ecclésiaste 4, 9 à 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Dieu a dit à Moïse que son plan pour Israël était qu'il soit un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, 6. L'héritage devait être transmis à travers les familles, décrites dans ce qu'on appelle le « grand commandement » Deutéronome 6, 4 à 9. Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs du Nouveau Testament à utiliser ces termes dans le Nouveau Testament pour désigner l'Église. 1 Pierre 2, 9. Dieu a toujours voulu que les personnes qui soient en relation avec lui également soient en relation les unes avec les autres. Notre relation avec Dieu nous forme dans une communauté de foi. Tout comme notre relation avec Dieu appelle à l'engagement, notre relation avec les personnes de Dieu appelle l'engagement. Il est faux que la personne pense qu'il pourra être en de bonnes relations avec Dieu, mais choisissez de ne pas être en relation avec le peuple de Dieu. Paul a utilisé la métaphore du corps pour décrire la relation entre les membres de l'Église, 1 Corinthiens 12. Aucun membre ne peut fonctionner correctement s'il essaie d'être indépendant du corps. Les membres doivent coopérer et s'occuper les uns des autres, ou il n'y aura pas de corps. Si un membre est blessé, tous souffrent. Les actions d'un membre affectent l'ensemble du corps. Paul a parlé de cela lorsqu'il a traité la situation de l'homme dans une relation immorale, bien qu'il utilisât la métaphore du pain. Il a dit « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» 1 Corinthiens 5, 6. Nous devons nous considérer comme des parties vitales d'une communauté chrétienne. De nombreux commandements de Nouveau Testament ne peuvent être obéis sans un sens de la communauté. Pour remplir les commandements de Dieu, les chrétiens doivent vivre en engagement les uns envers les autres. Cela signifie que la communauté chrétienne conduit à une responsabilité spirituelle. Nous trouvons de nombreux endroits dans la Bible où la communauté chrétienne est liée à la responsabilité spirituelle. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Hébreux 13, 17. Ce verset raconte aux croyants de se soumettre à ceux des postes d'autorité spirituelle. Le commandement donne également une grande responsabilité envers les dirigeants spirituels. Leur responsabilité n'est pas seulement de diriger l'autorité, mais de surveiller les âmes sous leurs soins. Pour ce faire, ils doivent connaître suffisamment bien leur peuple pour lui donner une direction spirituelle individuelle. Et ils doivent entretenir avec lui une relation qui rende cette direction possible. La communauté chrétienne et la responsabilité spirituelle sont également décrites dans ce passage. Lisez Hébreux 10, 24 à 26. Qu'est-ce qui est commandé dans ce passage ? Nous sommes commandés ici d'être au courant des besoins des autres croyants et de les encourager à faire ce qui est juste. Notre encouragement n'est pas efficace si nous n'avons pas la bonne relation avec les autres. Nous devons bien les connaître et montrer l'amour et la préoccupation. Sinon, ils sont offensés par des conseils personnels. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3, 12 à 13. Nous sommes appelés à nous rendre mutuellement des comptes. L'exhortation doit aller au-delà des réunions programmées de l'ensemble du corps de l'Église, car il nous est ordonné d'exhorter quotidiennement. Cela nécessite une communion individuelle ou en petits groupes. Une telle communion ne consiste pas simplement à manger ensemble ou à se rendre visite, mais elle a un but spirituel. Pour atteindre cet objectif, nous devons planifier des conversations et des réunions de petits groupes avec cette priorité. La façon dont nous pouvons profiter les uns des autres est illustrée dans les Proverbes 27, 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Une personne n'a pas besoin d'être supérieure à une autre avant de le tirer parti de direction spirituelle et d'encouragement. En fait, la direction spirituelle donnée humblement est plus susceptible d'être acceptée. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. La confession de défauts personnels ne se produira généralement pas dans de grands groupes. Par conséquent, cette commande n'est pas facilement effectuée dans les services de l'Église. Le contexte montre la raison de la commande, que ceux qui ont commis une erreur peuvent être rétablis. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, 2. Souvent, un chrétien a l'impression que personne ne se soucie de ce qu'il traverse. Les autres chrétiens s'en préoccuperaient s'ils pouvaient vraiment comprendre ce qu'ils souffrent, mais ils ne le connaissent généralement pas assez bien pour le comprendre. Comment pouvons-nous porter les fardeaux des autres si nous ne les connaissons pas vraiment? Au début de la naissance de l'Église, une relation étroite parmi les croyants était normale. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Acte 2, 46. John Wesley a dit qu'il n'y avait pas de christianisme individuel. La responsabilité spirituelle se produit dans une communauté chrétienne en bonne santé. Pour avoir une responsabilité spirituelle, c'est d'établir une relation avec une personne ou un groupe à qui nous rapportons notre état spirituel, notre succès ou notre échec dans les disciplines spirituelles et nos engagements de développement. Sans responsabilité spirituelle, nous ne remplirons pas tous les commandements des Écritures et nous négligerons les moyens que Dieu a conçus pour nous donner grâce. Caractéristiques de la maturité spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie être spirituellement mature? Comment décririez-vous un croyant mature? Parce que la maturité prend du temps, il a tendance à venir avec l'âge. Tite 2, 1 à 5. De toute évidence, certaines personnes vieillissent sans mûrir spirituellement comme elles le devraient, et il y a des jeunes qui démontrent une maturité inhabituelle. La plupart des caractéristiques de la maturité ne sont pas complètement réalisées à un moment donné, mais sont progressivement augmentées. Parfois, ils peuvent augmenter soudainement à cause d'une expérience spirituelle ou d'une expérience de la vie. Même si une personne devrait continuer à développer toute sa vie, il peut atteindre un niveau qu'il peut atteindre une maturité spirituelle. Les caractéristiques de la maturité spirituelle sont décrites dans plusieurs passages des Écritures. Lisez ces passages. Éphésiens 4, 11 à 14, Hébreux 5, 12, 6, 1, 1 Corinthiens 3, 1 à 2 et 1 Jean 2, 12 à 14. Vous trouverez ci-dessous une liste de caractéristiques qui sont des signes de maturité spirituelle. Ce n'est pas une liste complète et certains points de la liste ne sont pas complètement distinguables des autres points. Un croyant mature peut ne pas démontrer toutes ses caractéristiques complètement, mais grandit. Il peut ne pas réaliser certaines de ses fautes, mais répondra au travail continu du Saint-Esprit dans son cœur. 10 caractéristiques de la maturité spirituelle. 1. Ressemblance au Christ dans les motivations, les attitudes et les actions. Ressemblance au Christ provient de la passion de connaître le Christ de sa nature, en expérimentant spirituellement sa mort et sa résurrection. Philippiens 3, 10. Cela peut inclure le partage de sa souffrance en persécution. Une personne qui aime le Christ comme ça sera transformée pour être comme lui. Être comme le Christ, c'est être motivé par l'amour et non par égoïsme ou fierté. Un suiveur de Christ veut être comme Christ et est triste à tout moment. Il réalise qu'il n'a pas été comme le Christ dans quelque chose qu'il a dit ou fait. 2. Relation étroite avec Dieu. Une personne devrait grandir dans sa relation avec Dieu. Les signes d'une bonne relation avec Dieu sont la jouissance de la présence de Dieu, l'amour pour la parole de Dieu et le temps passé dans la prière. 3. Démonstration des fruits de l'Esprit. Le Saint-Esprit produit des fruits dans la vie du croyant, qui comprend l'amour, la joie, la patience et la maîtrise de soi. Un croyant devient plus systématiquement gentil et doux, alors qu'il laisse le Saint-Esprit travailler dans son tempérament. 4. Victoire sur le péché extérieur et intérieur. Le croyant apprend à dépendre de Dieu pour la victoire sur la tentation. Il cède au nettoyage de Dieu afin qu'il puisse avoir un cœur sacré. Il développe des habitudes et des disciplines qui l'aident à vivre systématiquement en victoire. S'il cède à une tentation, il la confesse à Dieu et prie pour le pardon et la force. Il devrait partager ses échecs avec des amis chrétiens proches qui prient pour lui. Jacques 5, 16. 5. Les disciplines spirituelles établies. Des disciplines spirituelles sont des moyens de pratiquer notre relation avec Dieu, la première priorité. Une personne qui ne prie pas systématiquement, lisez la Bible et assister à l'Église n'est pas un croyant mature. 6. Développer le caractère chrétien. Un suiveur du Christ apprend à mobiliser sa vie sur des principes d'honnêteté, de fiabilité et de travail fidèle. 7. Une vie chrétienne cohérente. Un croyant apprend à appliquer des principes chrétiens à la vie. Un chrétien mature devrait vouloir ressembler à un chrétien tout le temps dans son comportement et ses attitudes. Comme il se rend compte que quelque chose qu'il dit ou ne correspond pas à l'amour dans son cœur, il dépend de la force de Dieu pour apporter des changements. 8. Relations saines. Un croyant mature développe des amitiés profondes avec d'autres croyants. Il entretient des relations en montrant l'honnêteté, la patience et le pardon. Il est humble et admet des erreurs. Parce qu'il peut mal comprendre une situation, il peut ne pas être aussi patient qu'il devrait, admettre une erreur rapidement ou avoir la bonne opinion sur une autre personne. 9. Un ministère personnel. Un croyant devrait identifier ses dons spirituels. Il devrait trouver sa place dans l'Église pour être une bénédiction pour les autres. Un croyant peut exercer un ministère dans l'Église en aidant à évangéliser et à participer à la formation de disciples dans la vie chrétienne. 10. Endurance des conditions difficiles. Un croyant devrait apprendre à faire confiance à Dieu lorsque de mauvaises choses se produisent. Il devrait compter sur Dieu quand il est dans des situations difficiles. Un croyant mature ne perd pas la foi quand il ne comprend pas pourquoi quelque chose se passe. Conclusion. Les caractéristiques de la maturité spirituelle ne dépendent pas de talents naturels. Ils ne sont pas les mêmes que les compétences du ministère. Ils n'accompagnent pas nécessairement la capacité de leadership. C'est bien si un chef de file est spirituellement mature, mais parfois une personne devient un chef de file en raison de ses capacités, alors qu'il n'est toujours pas spirituellement mature. Parfois, une personne est spirituellement mature, mais n'a pas de capacité de leadership. Certains types de personnalités semblent naturellement plus patients et gentils. Les traits naturels de la personnalité ne sont pas les mêmes que la maturité spirituelle. Dieu travaille dans nos personnalités et aide à apporter son équilibre à nos tendances. Si nous analysons une personne particulière, nous ne pouvons pas distinguer exactement entre sa personnalité naturelle et les caractéristiques du développement spirituel. Les problèmes de santé peuvent également affecter le discernement et les réactions d'une personne. Nous ne devrions pas être rapides à juger les autres.